Bon réveil à tous, voici le journal d'Anne-Laure Chouin. Bonjour Anne-Laure.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Nous serons au Sénégal dès le début de ce journal. Le candidat d'opposition finalement autorisé à se présenter semble avoir remporté l'élection présidentielle hier. Mais les résultats ne sont pas encore officiels.
En Russie, les moscovites sont venus se recueillir hier devant la salle de spectacle où a eu lieu l'un des attentats terroristes les plus meurtriers depuis 20 ans.
Nous reviendrons également sur les gros problèmes de distribution d'eau que connaît la Guadeloupe et sur la situation alarmante de la presse quotidienne régionale en France. Après ce journal, votre question du jour, Marguerite Caton.
Où va la Bibliothèque nationale de France ?
Il était encore en prison il y a quelques jours et pourtant au Sénégal, le candidat d'opposition à Macky Sall et bras droit de l'opposant historique Ousmane Sonko, Bassirou Diomaye Faye, semble bien avoir pris l'avantage à l'issue de ce premier tour. L'élection s'est déroulée hier après bien des péripéties. Le scrutin, on le rappelle, avait d'abord été annulé par le président en exercice Macky Sall, décision vivement contestée dans la rue. Finalement, après la libération des opposants historiques, un décret d'amnistie et la fixation d'une nouvelle date de scrutin, les Sénégalais ont pu voter hier. Et les résultats publiés dans les médias et sur les réseaux sociaux pourraient présager d'un changement radical puisqu'ils placent le candidat Bassirou Diomaye Faye devant celui du pouvoir, Amadou Ba, et très loin devant les autres. Omar Waman, envoyé spécial depuis Dakar.
2 heures à peine après la fermeture des bureaux de vote, des dizaines de sympathisants de Bassirou Diomaye Faye se sont retrouvés au siège de campagne pour faire la fête. Samba Koli, un militant de la première heure.
J'ai même pas les mots, franchement. Très heureux parce que là, je pense que c'est plié.
C'est plié.
Ouais, on a gagné. Vive le changement, vive Diomaye, vive la jeunesse. Ils ont voulu basculer le pays dans le chaos. Nous, on a dit que non, on va aux élections et on va les gagner d'une manière démocratique, franchement.
Et ce siège de campagne est vite devenu trop petit, pris d'assaut par une foule survoltée. Mariam, directrice d'une société de communication.
Je suis trop fière. Personnellement, je me suis battue pendant des années pour que ce jour arrive demain. Moi, en tant que directrice de société, j'ai demandé à mes employés de ne pas venir travailler. On va faire la fête jusqu'au mercredi.
Dans le camp adverse, au quartier général du candidat de la coalition au pouvoir, Amadou Ba, l'ambiance était beaucoup moins gaie. Pour Cher Brahim Bey, un responsable politique, rien n'est joué.
Ce sont des manipulateurs. Nous sommes devant eux. Ce qui est sûr et certes, que le président Amadou Ba, Inch'Allah, sera déclaré président du Sénégal. Parce qu'on est confiant, c'est simple.
Les résultats officiels ne devraient pas être connus avant le courant de la semaine. Mais plusieurs candidats ont d'ores et déjà félicité Bassirou Diomaye Faye pour sa victoire.
Avec les moyens techniques de Jérémy Thuil, le camp du pouvoir en place annonce de son côté qu'il y aura un second tour. Le Conseil de sécurité de l'ONU va tenter à nouveau d'adopter un texte exigeant un cessez-le-feu immédiat à Gaza ce lundi. Vendredi, la Russie et la Chine avaient mis leur veto à un projet de résolution américaine qui n'appelait pas explicitement à un cessez-le-feu immédiat. Le texte mis au vote aujourd'hui est issu du travail des membres non permanents du Conseil qui ont négocié ce week-end avec les États-Unis et qui ont fait part d'un certain optimisme sur l'issue du vote. Deuil national en Russie hier après l'attentat terroriste de vendredi soir qui a fait 137 morts et 182 blessés après l'attaque d'une salle de concert de la banlieue de Moscou. C'est le bilan le plus meurtrier pour un acte terroriste en Russie depuis la prise d'otages dans une école de Beslan en Ossétie du Nord. C'était en 2004. Les 4 membres présumés du commando ont été arrêtés et torturés de façon parfaitement assumée par le Kremlin. Vous l'entendrez dans le journal de 8h. Mais alors que l'État islamique a revendiqué l'attaque, Vladimir Poutine, lui, désigne les Ukrainiens, une accusation formellement rejetée par Kiev et à laquelle une partie des Russes ne croit pas non plus. Notre correspondant à Moscou, Sylvain Tronchet, a assisté hier à un hommage devant le Krokus City Hall, le lieu de l'attentat.
Un prêtre orthodoxe prononce une prière devant le Krokus City Hall. Toute la journée hier, des milliers de moscovites sont venus déposer des œillets rouges comme Elena.
Nous sommes tous sous le choc. Tout Moscou pleure et est en deuil. Vous n'imaginez pas combien c'est dur et douloureux.
Le choc est immense pour ces Russes de tous âges qui s'interrogent. Certains accusent le terrorisme qui n'a pas de nationalité, disent-ils. D'autres, comme Ivan, adhèrent à la première piste évoquée par Vladimir Poutine.
Qui est derrière ça ? L'Ukraine. Nous n'avons pas de conflit avec qui que ce soit d'autre. Vous êtes un média, vous savez cela parfaitement. Je pense que c'est l'Ukraine, je n'ai rien à ajouter.
Un peu plus loin, Georgi, un étudiant, lui, ne croit pas à la piste ukrainienne. Mais surtout, comme beaucoup, il pointe du doigt les manquements des services de sécurité.
Cette situation a montré que nos forces de l'ordre n'ont pas réagi très rapidement. Les terroristes ont réussi à s'échapper, ce n'est pas normal. Parcourir autant de kilomètres et ne pas être détecté par nos services, c'est très étrange.
Tard hier soir, les moscovites défilaient encore devant le Krokus City Hall, mais on n'y a pas vu Vladimir Poutine, qui a allumé un cierge dans une église proche de sa résidence à Kremlin.
La Russie qui, selon certains experts, préparait une nouvelle mobilisation de soldats en Ukraine. Kiev, par ailleurs, s'apprête à subir le contre-coup d'une décision européenne, cette fois celle du plafonnement et de la limitation des importations de ces produits agricoles sur le marché européen. Le sujet fait débat en tout cas au sommet de l'Union européenne, car depuis l'attaque russe, l'Ukraine bénéficie d'une exemption de droits de douane, mais de la Pologne à la France, en passant par l'Allemagne, des mouvements d'agriculteurs européens conteste ces avantages, accusant les importations ukrainiennes de faire concurrence déloyale à l'agriculture européenne. Dans l'ouest de l'Ukraine, près de Lviv, notre envoyé spécial Camille Magnard est allé à la rencontre d'une entreprise agricole qui exporte l'un des produits au cœur de ces négociations commerciales, la viande de poulet. Écoutez son reportage.
Chez Oulard, on cultive 7000 hectares de terre. On abat 6000 poulets à l'heure. Avant l'invasion russe, l'entreprise exportait principalement vers l'Afrique, le Moyen-Orient, l'Asie du Sud-Est. Mais la guerre a coupé la route vers ces marchés. Alors l'Ouest, l'Europe, c'est devenu la seule issue pour tenter de compenser ces pertes, explique le directeur des opérations, Bogdan Poupa.
On a perdu beaucoup de débouchés sur le marché intérieur avec les territoires occupés et les millions de gens qui ont émigré. Donc le marché européen est devenu vital pour nous.
Alors quand le directeur commercial Igor Svistoun entend dire que l'Ukraine déstabilise ce marché européen en l'inondant de produits de moins bonne qualité, il y voit une injustice pour son pays en guerre.
On travaille selon les mêmes normes et au même prix que les Européens. Sauf que nous, en plus, à cause de la guerre, nous n'avons plus d'aide publique. On n'a plus accès à des taux de crédit intéressants. On manque de main-d'œuvre à cause de la mobilisation et de l'émigration. On trouve ça injuste d'être pointé du doigt.
Quant aux mobilisations d'agriculteurs européens qui ont fait tache d'huile ces dernières semaines, pour Igor et Bogdan, c'est clairement le fruit d'une campagne de désinformation anti-Ukraine menée en sous-main par la Russie.
Camille Magnard.
7h07 sur France Culture. La suite du journal d'Anne-Laure Chouin en France, c'est une conséquence de l'attentat de Moscou. Gabriel Attal a annoncé hier soir rehausser le plan Vigipirate à son niveau le plus élevé d'urgence attentat.
Annonce faite hier à l'issue d'un conseil de défense à l'Élysée. Et puis plus de 150 lycées et collèges ont reçu des menaces d'attentat après le piratage informatique de leurs espaces numériques de travail, les ENT, principalement des établissements des Hauts-de-France et en Île-de-France. Dans la Somme, la reprise des cours se fera ce matin avec des conditions de sécurité renforcées. L'eau revient peu à peu en Guadeloupe. Ce week-end, près d'un tiers de l'archipel en a été privé suite à des actes de malveillance. Selon la préfecture, une canalisation principale a été coupée. Le réseau d'eau est par ailleurs vétuste, mal entretenu. Il laisse échapper la majorité de son eau par endroits. Raisons qui ont poussé des salariés du syndicat unitaire, l'opérateur du réseau d'eau guadeloupéen, à faire grève. Il critique la mauvaise gestion du réseau. Fanny Imbert.
Ce n'est pas la première fois que ces incidents interviennent dans un contexte social tendu, car ici, l'eau, c'est un sujet constant. Au cœur des mécontentements, le SMEG, le gestionnaire de l'eau sur l'archipel, est régulièrement pointé du doigt. Mauvaise gestion en interne, grève à répétition, condamnation pour détournement de fonds en 2019. Pendant des décennies, l'opérateur a été mal géré et les transformations pour centraliser les différents syndicats d'eau n'y ont jamais rien changé, analyse Thierry Gadeau, auteur du livre « Guadeloupe, l'île sans eau ».
À la base, c'est vraiment la mauvaise gestion des syndicats. Malheureusement, cette mauvaise gestion se poursuit. Tant qu'ils n'auront pas résolu ce problème, la population ne pourra pas avoir confiance.
Une mauvaise gestion qui a entraîné 85 millions d'euros de dettes pour le syndicat unitaire.
Quand on distribue 80% de l'eau qui part dans la nature, il n'y a pas de revenus. Et sur l'eau qui est distribuée, soit les compteurs ne fonctionnent pas ou très mal, soit il n'y a pas de compteur du tout. Donc ces revenus sont extrêmement faibles et il n'a pas la capacité interne de dégager les fonds suffisants pour investir.
Coupures régulières, raccordements défectueux face à un service services aussi dégradés. Certains habitants contestent leurs factures. On estime qu'un tiers d'entre elles restent impayées. Un manque à gagner pour le gestionnaire, c'est le serpent qui se mord la queue. Pour Thierry Gadot, seul un investissement massif de l'État peut résoudre l'équation.
Il faut un vrai plan Marshall sur 5 ans pour pouvoir régler la situation. Mais l'État se refuse à engager ce plan Marshall.
Des travaux ont été lancés à hauteur de 300 millions d'euros quand les experts estiment qu'il en faudrait 1 milliard pour rénover l'ensemble du réseau.
Et Emmanuel Macron est attendu en Guyane aujourd'hui et demain une visite sur plusieurs thèmes, notamment sur le dossier institutionnel. Vous aborderez sans doute le sujet avec vos invités des matins, Guillaume. En France, la presse écrite est au bord du gouffre. C'est le constat, en tout cas, que dresse le baromètre des Assises du journalisme, publié aujourd'hui à l'occasion du lancement des Assises du journalisme à Tours, ce soir. La presse quotidienne régionale est la plus touchée depuis l'an dernier. 12 titres de cette presse sont concernés par des suppressions de postes. Les précisions de Julien Morcelli.
Une vingtaine de postes supprimés l'an dernier au Dauphiné Libéré, autant à Nice Matin, une quarantaine à Midi Libre, une cinquantaine à La Voix du Nord et à La Provence et 118 actuellement sur la Sellette à Sud-Ouest. La liste est longue et inquiétante. Jean-Marie Charon, sociologue, auteur de ce baromètre.
C'est une tendance en fait que sur une décennie je vois se renforcer, mais cette année me paraît particulièrement préoccupante puisqu'on voit qu'on en a plus d'une dizaine d'entreprises de presse régionale qui sont concernées par ou des plans sociaux ou carrément même des défaillances d'entreprises.
Des suppressions de postes qui s'expliquent par la baisse des ventes.
Les quotidiens régionaux sont tous en recul et parfois avec des reculs qui deviennent extrêmement substantiels hein, puisque plusieurs titres cette année ont un recul de l'ordre de 10% de leur diffusion, ce qui est quand même quelque chose de considérable.
Et si on prend encore plus de recul, la chute est vertigineuse. Baisse de diffusion de 56% en 30 ans pour La Voix du Nord, de 72% pour La Provence et même si le numérique a permis à la presse régionale de gagner de nouveaux lecteurs, Jean-Marie Charon juge qu'elle n'a pas su l'utiliser correctement.
On a peut-être trop tardé à comprendre que le numérique, ce n'était pas simplement de transposer sur un nouveau support ce que l'on faisait déjà sur l'imprimé. Il fallait repenser la manière de hiérarchiser l'information, la manière de cibler certains publics. Il y a une réinvention éditoriale à faire que l'on a à peu près trouvée pour les quotidiens nationaux et que l'on ne trouve pas pour les quotidiens régionaux.
Deux quotidiens régionaux tirent toutefois leur épingle du jeu, le Télégramme, aucun plan social et des effectifs en hausse de 8% en 10 ans, et son concurrent, Ouest France, qui compte 40% d'abonnés numériques, bien plus que la moyenne.
Enfin, un jeune, une solution, c'est le nom du programme rendu accessible à partir d'aujourd'hui et pour 2 semaines aux lycéens de seconde générale et technologique. La plateforme facilite la recherche d'un stage en juin pour 560 000 élèves, avec dans l'idée du Premier ministre et ex-ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, d'éviter un mois de juin trop inactif pour ses élèves de seconde à cause des épreuves du bac. Plusieurs syndicats d'enseignants craignent, eux, que ces stages créent des inégalités entre les élèves. Talita Thierro.
750 000 élèves seront en stage en même temps. Olivier Beaufrère, secrétaire national du syndicat des proviseurs, craint qu'il n'y ait pas de place pour tout le monde.
Il y aura un grand nombre d'élèves de lycées professionnels qui seront en stage, à peu près 200 000. Donc nos inquiétudes restent quand même grandes d'élèves qui pourraient se retrouver sans solution. Surtout qu'il y aura également certainement des montées en puissance en vue des Jeux Olympiques. Et puis peut-être aussi des gens qui seront amenés en entreprise à prendre des congés. Donc peut-être qu'il y aura effectivement moins d'offres possibles.
La plateforme Un jeune, une solution propose seulement 200 000 offres de stage. Certains élèves feront donc appel au réseau de leurs parents. Injuste pour Laurent Vanikowski, porte-parole de la Fédération des parents d'élèves de l'enseignement public.
Faut pas se leurrer, hein. C'est compliqué pour une entreprise aujourd'hui d'accueillir un élève. Il y a quelqu'un qui doit être responsable, qui donc va prendre le temps avec ce jeune. Donc forcément, les parents qui pourront accueillir dans l'entreprise où ils travaillent leurs enfants seront avantagés par rapport à ceux qui n'en auront pas la possibilité.
Autre inégalité pour Laurent Vanikowski, les élèves vivant dans des zones rurales auront des difficultés pour se rendre à leur stage.
Le temps de ce lundi plutôt gris, soleil tout de même de l'Alsace vers PACA, les températures maximales entre 10 et 18 degrés, localement 20 au sud de la Garonne. C'est la fin de ce journal et la suite des matins de culture, Guillaume Hernet.
Merci Anne-Laure Chouin. Et dans quelques secondes, la question du jour de Marguerite Caton, où va la Bibliothèque nationale de France ?